Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi! Bon début d'après-midi! Bon début d'après-midi! Ah, je m'entends, Maurice, en décalé! Bon mercredi! Bon mercredi. Bon, ben je m'entends un petit peu en décalé, mais on dirait que c'est comme ça qu'on va... Donc, aujourd'hui...
Je peux pas travailler comme ça.
Hein?
Ben, est-ce que vous entendez, vous?
Eh bien, pardonnez-nous pour le petit détail technique là, qui était peut-être pas adéquat, mais là, on est reparti, puis on y va avec cette émission du mercredi 17 février. C'est Marianne Paquette au micro. C'est Bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Eh bien, vous parlez de ce deuxième sujet dont on traitera. Bon, quand on va chez le dentiste, hein, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Ça fait grincer des dents, aller chez le dentiste. Et c'est souvent en lien avec la facture. Les coûts sont souvent élevés, les coûts en soins dentaires. Et ben, ça empêche beaucoup de Québécois d'y aller. Pour preuve, hein, il y a seulement 57 % de la population qui parvient à consulter sur une base annuelle un dentiste ici au Québec. Et on pourrait se dire... Ben, c'est plus que la moitié, donc c'est quand même assez bien. Mais c'est lorsqu'on se compare au reste des résidents du pays qu'on se dit que c'est peut-être pas reluisant, là, 66 % pour le reste du Canada. Ça a comme résultat, ça, que la population québécoise a la pire condition de santé bucco-dentaire. Et d'après l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, bien, ça engendre de graves conséquences, notamment pour la santé, bien sûr, mais aussi tout le volet économique. Et il y aurait des solutions pour contrer ça, d'après l'Ordre. Et j'en parlerai en deuxième partie d'émission avec Diane Duval, elle qui est présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Mais aussi, vous parlez d'une initiative, oui, qui m'a beaucoup charmée, enchantée dans les derniers jours et que je trouve particulièrement humaine, nécessaire aussi. Ça s'appelle les libraires à domicile. C'est mené par l'Association des libraires du Québec en partenariat avec le regroupement québécois des résidences pour aînés et l'organisme Ex-Éco. Ce sont des rencontres entre des libraires, entre des auteurs également, et des personnes qui ont parfois des difficultés à se déplacer. Je pense ici à des personnes âgées, à des personnes handicapées également. Tout ça dans le but de rendre la lecture accessible, mais aussi et surtout, à mon sens, de briser l'isolement. J'en parle à l'instant avec Catherine Fafard et Stéphane Rivard de l'Association des libraires du Québec et Benoît Racette de Ex-Écho. On n'est plus décalé, Maurice nous dit, Maurice Bolduc, à la mise en onde. Bon, ben, on serait de retour, là. Plus de pépins techniques, on peut repartir en grand. Vous pouvez mettre vos écouteurs, ils sont autour de la table. Stéphane Rivard, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Catherine Fafard.
Bonjour.
Benoît Racette. Bonjour. Merci d'être resté, hein, malgré tout. Donc, initiative superbe, celle de l'Association des libraires du Québec, qui, à mon sens, est une façon de garder les personnes âgées, les personnes handicapées dans la vie active. Hein. Si on a lu le dernier livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, on peut en parler avec notre petite fille, à notre voisin. On participe encore à la société. Est-ce que c'était l'un de vos désirs?
Ben nous, depuis un certain temps déjà, on travaille vraiment à ce que les libraires sortent de chez eux. Donc, on le fait au Salon du livre de Montréal, au Salon du livre de l'Outaouais, bon, tout ça. On veut vraiment qu'ils sortent à l'extérieur de leur librairie pour aller rencontrer les lecteurs. Parce que souvent, on va avoir comme mentalité que les libraires restent vraiment encabanés, là, excusez-moi l'expression. Mais non, au contraire, vraiment, quand on a voulu les faire sortir, ils ont voulu sortir. Les lecteurs étaient intéressés par ce qu'il y avait à dire. Et dans le cadre de ce projet-là, ben, on s'est dit... Oui, vous êtes des médiateurs culturels incroyables. Vous êtes le lien entre le lecteur et le livre. Donc, allez en parler directement aux gens qui ne peuvent pas sortir facilement de chez eux.
Mm-hmm. Est-ce que ça a été bien accueilli des libraires, des auteurs?
Ah, ça a été super. Moi, je veux dire, déjà, il y a eu une série de rencontres. Les libraires ont été charmés, les résidents ont été charmés et les auteurs à qui j'ai parlé veulent le refaire.
Mmh.
Donc, parce que c'est vraiment des rencontres qui sont assez particulières. Je veux dire, c'est pas des conférences, il n'y a rien de préparé à l'avance, là, c'est du live. Et c'est un moment de rencontre souvent intime, à la couleur des résidents.
Oui.
Donc, vraiment, les auteurs aiment partager ce moment-là aussi.
C'est une façon aussi d'y aller, j'y vais avec le titre paru dans le journal Le Devoir, donc de la lecture en prescription, d'y aller avec les besoins très, très ciblés de la personne qui est devant nous.
Mm-hmm.
Oui, en fait, on a jumelé chaque libraire qui participait avec une résidence en particulier et on leur a demandé de les interroger sur les besoins des résidents. À savoir, est-ce qu'ils veulent qu'on leur parle de romans policiers, de romans historiques? Mm-hmm. On a été surpris quand même des demandes parfois où il y a une résidence qui a demandé qu'il y ait une séance dédiée à la littérature jeunesse.
Ah ouais?
On se dit sûrement que les grands-parents veulent avoir une activité avec leurs petits-enfants, ce que je trouve tout à fait charmant.
Mm-hmm.
Beaucoup de demandes reliées aux romans policiers. Donc, ça traverse les âges.
À peu près une douzaine de résidences, Catherine,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait. Dans beaucoup quand même d'arrondissements de Montréal, parce que le projet est uniquement à Montréal pour cet an 1. Mais on a des
oui,
envies
vous avez d'autres projets.
On
va entendre Benoît Racette là-dessus, parce que première phase de janvier à juin auprès des résidences de personnes âgées. Deuxième phase, on vise des personnes handicapées. De quelle façon on va rejoindre ces personnes-là, Benoît?
Bien, c'est une très bonne question. En fait, l'idée de base, c'était de faire de la médiation culturelle, donc de faire rencontrer la culture. Mais j'aime beaucoup le titre qui a été développé par l'Association des libraires du Québec, puisqu'on parle d'accessibilité à la lecture. Et donc, non seulement on souhaite aller vers les gens, mais on est à table avec l'Association des libraires du Québec et d'autres intervenants, notamment Société Logique, pour regarder comment on va améliorer ensemble l'accessibilité, peut-être aussi des lieux que sont les librairies indépendantes.
Oui.
Mais j'avais envie d'ajouter autre chose. L'accessibilité à la lecture, c'est pas seulement l'accessibilité physique. Et on trouve que c'est ici un bon moyen de le faire valoir. En fait, les personnes vieillissantes, les personnes âgées, mais même beaucoup de gens dans la population ont toutes sortes de besoins à l'égard de l'accessibilité. Ils peuvent présenter des difficultés à la lecture, par exemple. Ils peuvent avoir des problèmes de vue, vous le savez. Hein? Oui. Beaucoup des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent le savent. Donc, on pense aussi, peut-être dans une phase 2, à mieux promouvoir les livres adaptés, les livres en gros caractères. Et, ça serait un véhicule extraordinaire pour ajouter... à ce qui se fait déjà très bien là, pour la phase 1.
Oui, parce que, et je rebondis sur cet article du Devoir, je trouvais que c'était une façon particulièrement intéressante de sensibiliser le grand public, parce que lorsqu'on dit à un libraire ou à un auteur, bien, la bande dessinée, c'est superbe, ça peut intéresser tout le monde, mais peut-être que c'est écrit un petit peu trop petit pour une clientèle, soit handicapée ou plus âgée, bien, ça fait réfléchir tout le monde. Et si les auteurs... réfléchissaient le livre autrement, on peut semer des graines de cette façon-là. Mm-hmm. Est-ce que c'était un objectif à quelque part?
Bien, à la base, je veux dire, c'est certain qu'il y a toujours quelque chose, quand on fait des rencontres, qui est de l'ordre du magique.
Ouais. Bon,
je veux dire, on ne sait jamais comment ça va se passer. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, dans ce que j'ai lu dans l'article du Devoir, j'étais malheureusement pas là cette fois-là.
Mais vous êtes cité, Stéphane Rivard.
Oui, mais j'étais pas loin, sur les lieux. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce que Patrick Pilote a dit. Dites-moi ce que vous aimez lire, puis moi, je vais vous trouver une BD que vous allez aimer. Puis je rebondis vraiment sur ce que vous avez dit, la prescription. C'est à la mode là, de parler de prescrire des livres, tout ça.
De l'activité physique.
Exactement, ça a ressorti. Mais vraiment, les libraires sont là pour ça. Hein. Je veux dire, souvent, je trouve que c'est intéressant ce projet-là parce que c'est un défi. Les personnes âgées et les personnes qui ont un petit peu plus de difficultés à se déplacer, ils viennent pas en librairie. Mm-hmm. Et ils peuvent pas aller voir un libraire puis dire, leur expliquer concrètement, moi, j'ai ces problèmes-là, comment tu peux m'adapter littérairement, tu sais, je veux dire, entre guillemets. Donc, c'est vraiment un exercice pour eux. Puis, il faut qu'on soit sensible à tout ça. Le livre, c'est le médiateur par excellence. Oui. Là.
C'est quoi les bienfaits de la lecture?
Il y a beaucoup de rapports qui parlent des bienfaits. Notamment, on l'a dit tantôt, c'est la lecture, c'est quand même un acte solitaire à la base.
Oui.
On lit seul. Mais c'est aussi, à la fois,
C'est
un
rassembleur en même
c'est
temps.
Ça, puis...
Parce que lorsqu'on peut parler du livre qu'on vient de lire et que ça fait résonance chez quelqu'un d'autre, il y a un lien.
C'est là que ça prend.
C'est un lien social aussi,
il
ne faut pas oublier. Oui.
Fait que je pense que c'est important de créer ces rencontres-là où les échanges à propos du livre qu'on vient de lire, qu'on a aimé, sont rendus possibles. Parce que j'imagine des gens en mobilité réduite avoir lu peut-être l'Anaïs Barbeau-Lavalette puis avoir envie d'en parler, mais à qui, dans quel contexte? Là, on met un libraire qui est au courant de pas mal toutes les nouvelles parutions, aussi tout ce qui existe auparavant. On invite un comédien à venir lire à voix haute un des livres qui a été demandé souvent par les résidents, ou... l'auteur lui-même à venir parler de son œuvre, parler des livres qu'il aime. Et c'est ce qui a séduit d'abord et avant tout les résidences qu'on a approchées, c'est la rencontre autour du livre.
Mm-hmm. Bon, il y a aussi tout l'aspect cognitif pour les personnes plus âgées, personnes handicapées aussi, la mémoire, tout ça, ce sont des aspects aussi importants des bienfaits de la lecture. Benoît, est-ce que vous pensez que ce manque d'accessibilité-là, je pense, des librairies indépendantes ou de peut-être d'autres librairies, ça a un impact justement sur le fait que des personnes handicapées pourraient être moins portées à lire?
Intéressant. En fait, on ne sait pas encore dans quelle mesure il y a de l'accessibilité, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui le sont. Et notamment des membres de l'Association des libraires du Québec. Peut-être qu'il y a un effet, mais en même temps, je pense que le projet est plus global. C'est pas juste l'accessibilité à la librairie là, qu'on questionne, c'est justement la possibilité d'enrichir les habitudes de lecture des gens. Et qu'on le veuille ou non, bon, chez les personnes en situation de handicap, il y a beaucoup de personnes âgées et inversement. qu'on le veuille ou non, l'éducation, le niveau d'éducation est très différent. Peut-être que le livre a pas été toujours très bien présenté pour ces personnes-là. Et moi, je trouve que les efforts de l'ALQ pour être des agents culturels, puis comme ça, enrichir, améliorer l'envie du livre, sont extrêmement salutaires. Et il existe beaucoup d'acteurs. Hein? Bon, les bibliothèques tentent de faire ça aussi. Mais les libraires indépendants le font de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on était séduits. On voulait participer à ce geste culturel d'éducation, de réflexion, de rencontre. Mais dans la phase 2, on va s'intéresser davantage à cet aspect-là des choses, l'accessibilité.
Vous l'attaquez physique. Quand, cette phase 2-là?
Ben, ça commence, là, on est en train de vraiment labourer le terrain pour que ce soit le plus accessible pour tout le monde. D'ailleurs, il va y avoir une soirée de clôture pour cette année 1 de ce projet-là qui
en
va
juin.
Se faire en mai.
En mai,
on d'accord. va le faire, on va clore avant que ce soit terminé. C'est toujours plus le fun. Mais à cette activité-là, bon, donc, ça fait partie de la phase qu'on appelle 2. On vous invite à venir hein, parce qu'il va y en avoir des libraires qui vont prescrire. Donc là, vous allez pouvoir voir c'est quoi justement, comment, à partir de n'importe quel intérêt, un libraire peut se retourner, vous dire « ben va voir ça ». Mais de la phase 2, bon, il y a l'idée de aussi travailler avec les HPSR.
Oui, il fallait le mentionner. En fait, les habitations Pignon-sur-Roue, vous savez, c'est avec SECO collaboré à ce que ces deux résidences uniques apparaissent. C'est des gens qui sont très autonomes hein, et qui ont accès à des services 24 heures sur 24, mais qui sont dans la vie active. C'est pas les personnes âgées nécessairement, quoique les personnes âgées sont très actives aussi, là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des activités qui sont faites avec ces résidences là qui à venir, donc d'ici la fin de la phase 1. Et pour ce qui est de la clôture, on fera d'autres annonces. Là, faut rester attentif. On va continuer de faire des choses. Oui. On vous apprendra ça.
Faut continuer de nous suivre.
Oui. Ça, voilà.
J'entends promotion de la lecture, promotion du livre aussi, en tant qu'objet culturel, en tant que de le valoriser au sein de notre vie, de notre quotidien. Est-ce qu'il y a une forme de vente aussi derrière l'objectif des libraires en résidence?
Bien, pas du tout. Hein. Je veux dire, à la base, cette initiative-là, elle a été développée dans le cadre du PMAC, donc le Programme d'action montréalais culturel. Et c'est vraiment des projets de médiation qui ont été demandés dans ce projet-là. Donc, nous, on envoie des libraires dans ces résidences-là pour parler de lecture.
Oui.
C'est vraiment le but de ces rencontres-là. Il y a déjà d'autres formes de dépôt de livres aussi dans les résidences pour personnes âgées. Les bibliothécaires, souvent, vont travailler avec eux aussi pour l'accessibilité de la lecture en déposant des livres. Donc, c'est... Non, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de ventre lié à ça. C'est l'idée de parler le plus possible de lecture, de littérature, au plus de gens possible.
Mm-hmm.
Ouais.
Mais moi, ça m'a surpris, je dois vous avouer, parce qu'en fait, l'Association des libraires du Québec a vraiment des mandats, j'oserais dire, sociaux. Puis on oublie que dans les librairies, la plupart du temps, c'est des gens qui ont étudié en littérature, qui sont des spécialistes de littérature. Et en fait, c'est devenu un agent culturel. Et en plus, bon... Dans l'Association des libraires, il y a aussi la dimension indépendante. Donc, on s'entend, il ne s'agit pas de faire des grands profits dans ces librairies-là. Mais donc, c'est pour ça que c'est un acteur intéressant à ajouter dans la liste des acteurs culturels, comme les bibliothèques aussi, même s'ils ont un mandat davantage public.
Mm-hmm. Catherine, est-ce qu'on souhaite faire des bébés avec ça? Là? C'est Montréal, là, mais on aimerait peut-être s'étendre ça ailleurs.
Oui. D'ailleurs, l'article du Devoir nous a apporté un lot d'appels téléphoniques et de courriels dans les derniers jours.
Mm-hmm.
Et
ben oui.
Il y a d'autres villes qui lèvent la main parce qu'ils veulent qu'on fasse un projet similaire avec les libraires de cette région-là.
Mm-hmm.
Et on est évidemment très ouverts à faire des petits.
Oui. En terminant, une question, j'ai envie de revenir sur la relation qui s'installe, soit entre l'auteur et la personne âgée, ou le libraire, la personne âgée, personne handicapée pour la phase 2. Comment ça se crée? Parce que parfois, il peut y avoir soit un fossé culturel, un fossé générationnel également. Ce sont des gens qui sont habitués à travailler avec le grand public, mais peut-être pas nécessairement avec cette clientèle si spécifique. Bon, ne sont pas nécessairement formés. Est-ce que vous avez des exemples de comment ça s'est passé, ces rencontres-là?
Ben moi, dans ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il y a eu un mariage parfait dans une résidence qui a entendu parler du roman policier québécois contemporain. Mm-hmm. OK? Donc, on s'en va dans quelque chose de très particulier, quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc, bon, une nouvelle vague en littérature policière québécoise, c'est riche, il y a plein de choses qui se passent. Mais il y a un jeune auteur, Patrice Lessard, qui est allé dans une librairie, dans une résidence avec un libraire chez Gallimard, Sébastien, et les résidents étaient super intéressés à entendre parler de ce qui se fait actuellement. Même chose avec la librairie Monet, il y a des résidents, bon, ils connaissaient pas la BD, mais ils étaient intéressés à découvrir. Donc, moi, je pense que c'est dans le mandat aussi des libraires de faire découvrir de nouvelles choses. Oui. Et tant mieux si ça peut passer par quelque chose qui est déjà connu à la base. Bon, il y a de la littérature qui est plus lue, c'est certain, mais si ce tremplin-là peut nous permettre d'amener une diversité dans la lecture, oui, tant mieux.
Et dans cette résidence du Mylan, où on s'est mis à parler d'urbanisme, oui, dans, oui, le quartier Rosemont, ça ouvre à plein de discussions.
Oui, mais ça ressemble beaucoup aux citoyens du Mylan. Je vous dirais.
Mais c'est vrai que la librairie et les libraires ont souvent été associés à des lieux où il y a des échanges sociaux, ne serait-ce que la librairie tranquille à l'époque. Là. Oui. C'était un lieu où les artistes du Refus Global venaient se réunir pour changer les choses. On dirait que le livre, les libraires ont toujours été ce lieu-là ou ces acteurs-là où on peut parler de tout.
Et maintenant, des entremetteurs.
Oui, puis nous, on veut que...
Faire un changement pour plus d'accessibilité, c'est donc fantastique.
Ben oui, oui, parce que la lecture, c'est un acte solitaire, mais ça peut être un acte engagé. Oui. Puis c'est ça qu'on veut passer comme message aussi à travers ce projet-là. Le libraire, il s'engage auprès des gens qu'il aime, donc ses lecteurs.
Ben, sur ces belles paroles de Stéphane, je vous laisse, mes chers, en rappelant Stéphane Rivard et Catherine Fafard. Vous êtes de l'Association des libraires du Québec et Benoît Rassette, ici de Ex-Echo, fidèle collaborateur. Benoît, merci à vous trois d'être venus et on vous suivra aussi. On glissera tous ces liens sur le site du Canal M. Merci.
Merci. Merci.
Diane Duval, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Il nous reste peu de temps, Madame Duval, mais je veux absolument que l'on parle de vos requêtes, là, parce que ce que l'on apprend dernièrement, dans les derniers jours, c'est que les soins de santé bucco-dentaire au Québec sont les plus élevés, et ce, partout au Canada. Il y a des impacts, autant point de vue santé, point de vue économique pour la population ici du Québec. Quelles sont les demandes de l'Ordre des hygiénistes dentaires en ce sens?
Ben, vous avez tout à fait raison, là, une étude économique indépendante, là, commandée par l'Orne, met en relief qu'ici au Québec, on paie très cher, plus de 3 milliards de dollars en soins bucco-dentaires, puis pourtant, on a la pire condition bucco-dentaire du Canada. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, on paie beaucoup pour les restaurations bucco-dentaires, puis on n'a pas instauré la culture de prévention. Et justement, dans le champ de pratique de l'hygiéniste dentaire, vous avez cette expertise-là qui est mise à profit dans les autres provinces canadiennes. Et je pense que ça a eu un impact majeur pour effectivement diminuer le taux de problèmes bucco-dentaires chez les autres populations canadiennes, en fait des autres provinces canadiennes.
Parce que vous, ce que vous proposez, c'est que les hygiénistes dentaires pourraient se déplacer, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les CHSLD, elles pourraient donner des soins importants en termes de soins santé de bucco-dentaires, là.
Tout à fait. Puis le rendement est très, très impressionnant. D'investir en santé, ça a un rendement à la fois de santé et à la fois économique. Alors, il y a des épargnes majeures que fait ressortir l'étude économique lorsqu'une hygiéniste dentaire agit à l'école en amont, en prévention, mm-hmm. ou auprès même de la population ou dans le secteur privé. Les coûts sont moindres aussi quand on peut avoir accès direct à l'hygiéniste dentaire sans la nécessité d'un examen préalable du dentiste. Et ça se fait dans les autres provinces et ça fonctionne bien. Et ça démontre clairement qu'on prend un retard ici pour notre population québécoise qui est immense et qui fait encore aujourd'hui combat. On est toujours les pires, oui. On a toujours les pires conditions.
Et on a tout pour contrer ce phénomène-là.
Ben oui, vous avez l'expertise. Les hygiénistes dentaires sont encadrés par un autre professionnel. On a profité dans le domaine de la santé des autres professionnels de la santé. On a laissé la latitude pour qu'ils agissent. Ouais. Mais je pense que c'est le tour aussi de la santé bucco-dentaire. Je dirais l'enfant pauvre de la santé. Et le levier économique et les obstacles que ça représente pour la population les plus démunie, mm-hmm. ben il faut arriver à abolir ces barrières-là et faire en sorte que comme dans les autres provinces, on puisse avoir accès, la population puisse avoir accès.
Oui, on suivra ça de près, Diane Duval.
Il faut.
Je le rappelle, vous êtes présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Merci beaucoup pour ce court passage à l'émission.
Plaisir, au revoir.
Merci Maurice Bauduc à la mise en onde, Marianne Paquette. Demain, ça ira mieux, je vous le jure. Demain, 14h. Bye bye tout le monde.